Gérard Felzer, bonjour.
Bonjour.
Combien de temps faudra-t-il pour que les boîtes noires du vol AH-5017 livrent leurs secrets ?
Alors déjà, un premier temps, on les a récupérés, ce qui est déjà bien. Il faut voir aussi si ce sont des anciennes générations, c'est-à-dire analogiques et non pas numériques. Si c'est analogique, c'est un peu plus fragile. Il faut les déchiffrer, ça prend plus de temps. La première, me semble-t-il, qui est intéressante, c'est la conversation des pilotes, puisque là, on saura exactement s'ils sont rentrés dans un cumulonimbus. Ils auront dû parler entre eux et commenter en direct les problèmes qu'ils ont eu à résoudre. De l'autre boîte noire, tous les paramètres de l'avion... Est-ce qu'il a décroché? Est-ce qu'il s'est retrouvé sur le dos? Est-ce qu'il a eu un dommage mécanique majeur? La perte d'un réacteur, le feu, suite à un foudroiement, voilà, ça on saura tout ça. Il faut lire la partition.
Alors il semble que l'une de ces deux boîtes noires soit endommagée, hein, on ne sait pas exactement laquelle à l'heure qu'il est, mais de toute façon, si on vous entend bien, c'est pas une bonne nouvelle, puisque chacune a des informations précises et indispensables.
Si on a déjà une des deux, ça donnera déjà de bonnes informations. On saura quand même reconstituer à peu près le scénario avec l'une des deux.
Si les boîtes noires ne parlent pas ou pas assez, ce sont les débris, les milliers de débris éparpillés sur les lieux du crash qui vont être examinés. Gérard Felzer, on l'a dit, hein, ce sont de tout petits débris métalliques qui ont été retrouvés. Est-ce que c'est exploitable? Dans quelles conditions est-ce exploitable?
Tout est exploitable, évidemment. Ça rajoute des indices. L'impact du choc, savoir si on peut trouver un point d'inflammation qui pourrait nous dire si l'avion a explosé en vol ou a percuté le sol quasiment en entier. Est-ce qu'il a manqué des pièces avant de toucher le sol? Par exemple, un réacteur qui se serait détaché, que sais-je. Tout ça, on peut essayer de reconstituer ce puzzle. Ça prend beaucoup de temps, mais ça viendra confirmer ou infirmer des hypothèses qu'on aura en lisant les boîtes noires.
Techniquement, comment est-ce qu'on fait parler ces bouts de métal?
La violence des chocs, la température atteinte par ne serait-ce que les réacteurs, si on les retrouve une bonne partie, on peut remonter un tout petit peu leur histoire. Savoir s'ils ont givré, par exemple, si les moteurs se sont arrêtés. Ce sont des enquêtes extrêmement compliquées, minutieuses, mais on arrive à faire parler des débris.
Ces analyses peuvent se dérouler sur les lieux même du crash?
Je ne pense pas qu'on reconstitue, à moins que ce soit vraiment nécessaire, comme on l'avait fait pour l'accident de l'UTA qui avait une bombe à bord. On avait reconstitué quasiment tout l'avion à Paris, avec toutes les pièces détachées. Est-ce qu'ils prendront cette décision? Elle dépendra probablement de la lecture des boîtes noires.
L'une des choses que l'on recherche, évidemment, c'est la trace éventuelle d'explosifs?
Ça, on devrait pouvoir y arriver, parce que les points d'inflammation font que ça change de couleur sur le métal ou sur les pièces. La déformation aussi, c'est pas du tout la même chose qu'un choc en état ou une explosion. Donc ça, on arrivera à le déterminer, oui, ça, c'est des points importants, oui.
La question de l'identification des corps semble extrêmement délicate. Là encore, Gérard Felzer, du fait de la dispersion, comment est-ce que ça peut se passer?
Dire que c'est quasiment impossible d'aller retrouver les corps, c'est des choses qui sont très difficiles à dire. Je pense qu'il y a un peu de pudeur par rapport à ça, mais ça va être très, très difficile de reconnaître les corps.
À quel moment pourra-t-on formuler des hypothèses? Étayer, dire eh ben, c'est plutôt la météo, c'est plutôt une erreur humaine.
Sur les deux hypothèses, on le saura très vite. Il a essayé d'éviter, d'après son message radio, une première ligne d'orage. Il est probablement rentré dans une deuxième qui lui a été fatale. Est-ce que l'appareil n'a pas résisté à ça? C'est quelque chose qu'on saura assez rapidement. Si c'est l'hypothèse de la météo, j'ai du mal à admettre qu'on puisse rentrer dans un cumulonimbus aujourd'hui. Je ne veux pas forcément charger les pilotes, on peut se faire piéger un jour ou l'autre. Le radar n'a peut-être pas bien fonctionné, ou on ne savait pas vraiment s'en servir, ou pas suffisamment d'expérience sur les fronts intertropicaux qui sont fréquents dans la région. C'est la seule chose qu'on ne peut pas apprendre en simulateur, éviter les orages. Et il est vrai que si les pilotes sont aguerris à l'Afrique, à ce front intertropical, ce qui n'était peut-être pas le cas de ces pilotes et de cette compagnie, c'est un inconvénient supplémentaire.
Donc vous, en fait, à l'heure actuelle, vous penchez pour peut-être explication météo plus défaillance technique ou défaillance humaine?
On privilégie le phénomène météo, mais le phénomène météo, c'est pas quelque chose qui est fatal. On va pas aller là où c'est rouge, c'est-à-dire le radar qui vous indique des grêlons gros comme des balles de tennis. C'est un avion qui a une quinzaine d'années, il est pas si vieux, mais quand même, on a depuis amélioré considérablement les radars, détecte les turbulences, ce qui n'était pas le cas à l'époque. l'époque.
Plusieurs pays sont impliqués dans cette enquête, le Mali bien entendu, mais aussi la France et l'Algérie. La police scientifique algérienne est déjà sur le terrain, disait hier le ministre des Transports. C'est fréquent ?
Dans ce cas-là, quand il s'agit de plusieurs nationalités concernées, Air Algérie la première puisqu'elle a frété l'avion, les Espagnols parce que ils étaient prestataires, donc ils doivent être là. Le pays est là où ça s'est passé. Tout le monde doit être présent. Et c'est une commission internationale qui de facto se met en place en évitant les maladresses. Il ne s'agirait pas de dire que tel ou tel pays est incapable de le faire et que seule la France, avec des vieux réflexes, dirait « bah écoutez, poussez-vous, je vais m'y mettre et enfin ça va être sérieux ». Tout le monde a sa place. Le BEA, le Bureau Enquête Analyse, est assez diplomate et intelligent pour partager son savoir.
Merci Gérard Felzer.